Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, c'est une heure d'émission qui vous attend pour aborder un sujet, une actualité de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle d'émissions sur les sept sacrements. L'idée de ces émissions, c'est de comprendre la symbolique derrière chacun d'entre eux, connaître leur histoire et les resituer dans notre vie de chrétien. Et le sacrement qui va faire l'objet d'une émission aujourd'hui, c'est l'onction des malades. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Père Michel Pagès, recteur du sanctuaire de Saint-Jérôme à Toulouse, responsable diocésain des aumôneries pendant 8 ans et aumônier pendant 12 ans, national du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance. Bonjour mon Père.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors je vais commencer et je vais vous piquer un petit peu avec une première question. On a l'impression que ce sacrement des malades, c'est un peu un sacrement oublié. Comment vous l'expliquez ?
Je pense qu'il est, marqué par son histoire. On y reviendra sans doute, mais l'histoire de ce sacrement, c'est d'abord Jésus qui, dans les évangiles, pratique les guérisons. Alors les guérisons à tout visage. Il touche les corps, il touche les blessures de l'âme. Au paralytique, il dit « tes péchés sont pardonnés ». Donc il lie un peu les deux. Il touche aussi à des maladies qu'on dirait psychologiques aujourd'hui. Donc Jésus a pratiqué. Voilà, ce rapport bienveillant, accueillant et de guérison, n'ayons pas peur des mots. Voilà, enlever des quatre évangiles le nombre de récits de guérison aux multiples visages, comme je viens de l'évoquer, je vous assure que ça manquerait quelque part. Donc, dans l'histoire du salut, il me semble que le sacrement qui touche l'achèvement des malades, qui touche à la guérison, est quand même quelque chose qui a très fort à voir avec le salut global. On a un récit dans la première lettre de Saint Jacques. Comment l'Église, la primitive Église, pratiquait ce sacrement. Et c'est très très interpellant parce que on dit qu'on commence par prier. Alors on évoque l'entourage du malade, c'est fondamental. On fait, dit le texte, ce que Jésus a fait. Imposition des mains, utilisation d'une onction. La finale, c'est, et je fais court, le malade s'en trouvera bien, ses péchés lui seront pardonnés. La conclusion, c'est, car la prière du juste agit toujours avec puissance. Donc, la primitive Église s'est appropriée très vite ce sacrement et elle l'a vécu. Alors, pour répondre précisément à votre question, la longue pratique de l'Église a été jusqu'au XVIIe siècle, je fais court, de le donner... et de le respecter dans ce terme de l'onction des malades. Et au XVIIe, alors pour le coup, je sais que les clercs ont beaucoup de défauts, mais pas celui-là. C'est un peu le rapport de la communauté chrétienne qui n'appelait le prêtre que à fin de vie. Et que le sacrement de l'onction est devenu l'extrême onction. Chose qui formule qui traîne encore aujourd'hui quelque part. Et c'est la réforme conciliaire qui a voulu, Vatican II, qui a voulu rétablir ce sacrement dans sa perspective première, pratiquée 17 siècles quand même, et l'a rétabli dans ce qu'il est, c'est-à-dire le sacrement qui touche la maladie, qui donne la force de combattre, qui peut opérer la guérison aux multiples visages. Et on a désenglué ce sacrement de la fin de vie stricte, ce qui n'exclut pas le fait de le donner en fin de vie, mais qui ne le réduit pas à cela. Voilà.
Vous avez un peu répondu à ma question suivante, mais avant on parlait d'onction des malades, aujourd'hui on parle de sacrement des malades. Pourquoi cette différence? Ça ne désigne pas vraiment la même chose?
Oui, parce que longtemps, primitivement, on l'appelait l'onction, parce que c'est le geste que Jésus a pratiqué. Il a touché. On dit dans des récits, alors ça touche pas directement. Ça commence strict, mais enfin c'est ce que Jésus a fait. Donc à certains moments, il crache dans la terre, il fait de la boue qui pose sur les yeux de l'aveugle. Donc il y a quelque chose d'une onction Voilà, qui après a été on a utilisé l'huile d'olive, qui était le véhicule de la grâce. Dans le sacrement, on a toujours besoin, il y a toujours le signe tangible, voilà. Mais donc on mettait l'accent par le terme sur ce geste-là, sur cette médiation. Après, dans la réforme conciliaire, on a aussi eu la possibilité de l'appeler le sacrement des malades. Mais ça ne s'oppose pas, c'est qu'on mettait l'accent sur le rite premier ou bien sur la totalité de l'être qui était touché.
Au fond, quel est le véritable sens de ce sacrement ?
Je crois que le mot clé, je l'ai évoqué, c'est le mot salut. Donc Jésus est venu, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est Jésus qui parle. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le mot salut, ça se traduit par, ça inclut le terme, on pourrait dire même que ça se traduit par le mot santé. Sauf que la santé, elle n'est pas que du corps, elle a que la santé de l'âme. Donc le salut, c'est vraiment ce que Jésus veut opérer dans nos vies. Il veut nous sauver, il veut nous rendre la santé de l'âme et du corps. Donc on comprend que voilà, que ce sacrement et cette œuvre s'originent là, dans le terme de salut et de santé.
Donc on peut le résumer à une purification de l'âme et du corps ?
Ah, purification, je crois que c'est plus profond que ça. C'est d'abord Jésus qui voit la réalité humaine tout entière comme une réalité blessée. Là, on pourrait toucher la foi chrétienne qui parle de la blessure originelle, du fait que tout homme, même non-croyant, découvre en lui une forme de blessure. Saint Paul dit « Je ne fais pas toujours ce que je voudrais ». Faire de bien et je fais parfois le mal que je voudrais pas faire. Il traduit un dilemme que tout homme fait et en fait le constat. Et donc, voilà, il y a ce travail de salut qui est profond. C'est le constat qu'on est blessé, le constat qu'on le dise et qu'on appelle au secours. Et Jésus est attentif à ceux qui appellent au secours. Il y répond, il entend. On raconte aussi dans un récit évangélique que les apôtres disent à un malade, mais tais-toi, arrête de crier. Et il insiste. Et Jésus, laissez-le venir à moi. Donc il y a cette écoute qu'il a de la nature humaine blessée, au sens le plus large. Voilà. Donc il rejoint cette réalité blessée et il apporte pas seulement un bien-être, mais il apporte une réponse que j'ai appelée salut, que l'Église appelle salut, qu'on pourrait dire santé. C'est-à-dire qu'il veut nous rétablir dans notre dignité première. C'est ça, au fond, être guéri. C'est pouvoir, si on est aveugle, on n'est pas fait pour être aveugle. Mmh. On est fait pour voir. Être malade, c'est être empêché de... Voilà. Et on pourrait dire que même la République française, car j'ai été salarié en même temps que responsable diocésain des aumôneries, mais j'ai été aussi sur le terrain et donc salarié à mi-temps du CHU, on autorise, la République ne rémunère aucun culte, c'est la loi, mais elle peut prendre des moyens pour permettre à des gens, à des cultes différents, de rejoindre ceux qui sont empêchés. Ah. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'hôpital public permet à des gens et donne rémunération pour permettre à des gens à toute heure et à tout moment de rejoindre ceux qui sont empêchés. Voilà. Donc, c'est important parce que la maladie nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et Jésus veut que nous soyons pleinement nous-mêmes, pas seulement dans le corps, mais dans l'âme.
Ce sacrement des malades, il est destiné à qui ? À tout le monde, tous les catholiques ?
Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on l'a longtemps, et je crois à tort, réduit au sacrement, au dernier moment de vie. Alors que Jésus intervient sur toutes les réalités blessées. Donc il y a quelque chose du fait que tout le monde est concerné quand on est en besoin. Donc, je crois qu'il n'y a pas de limite stricte. Alors, le rituel prévoit des choses précises. Alors, on dit en latin, avant le rituel, il y a des informations, des notations, on dit des prenotanda en latin, qui donnent aux ministres des points de repère pour pouvoir discerner quand est-ce qu'on le propose et comment et dans quelles dispositions. Ça rejoint votre question. C'est-à-dire que à l'hôpital notamment, et on allait parfois régulièrement à l'hôpital d'enfants à Purpan, et c'est un haut lieu pour l'enfance et les défis, puisque toute la région, c'est une structure qui permet à toute la région de, et on y amène là tous les enfants qui sont dans des difficultés ou pathologies difficiles, parfois qui menacent la vie. Et donc on est appelé là, et donc on voit bien que le rapport aussi à l'enfant, à l'adolescent est un peu différent et nuancé. Et un autre exemple, ce à quoi l'Église est attentive, c'est aussi que elle précise que parfois, dans un couple, un conjoint est très malade et on peut proposer évidemment ce sacrement, mais à l'observation du ministre, quand on voit le conjoint, je pense à la maladie d'Alzheimer par exemple, des époux ou les conjoints différents qui sont épuisés, vidés, et qui par amour sont là plus fidèles que quiconque, à qui on peut dire, je l'ai fait pour mes parents, qui ont vécu aussi ce genre d'épreuve, et de proposer à tous les deux de le recevoir ensemble. Et c'est quelque chose qui est très très touchant, parce que l'Église nous laisse ce discernement qui fait que, à votre question, qui est concerné, à nous de voir les circonstances. Mais les limites, elles sont pastorales, et le discernement, il est justement ajustable.
Voilà. Tout le monde peut recevoir ce sacrement des malades, mais c'est souvent quand l'état de la maladie est très avancé. Comment alors on sent justement que c'est le bon moment de recevoir ce sacrement ?
Alors on précise dans ces fameuses prenotanda, ces fameuses introductions pastorales, on précise qu'on peut le donner avant une intervention chirurgicale sérieuse. On peut le réitérer quand il y a évolution d'une maladie, je pense au cancer. On peut le proposer à des conjoints, je l'ai évoqué. On peut voir je l'ai vécu avec un enfant, 12 ans, qui allait être opéré du cœur gravement, qui était d'un milieu catholique, s'appelait David de mémoire, et était d'un milieu catholique très convaincu, et cet enfant était à l'aise avec sa foi. Et j'ai vu des parents très, très, quoique convaincus, très, très inquiets, Et quand j'ai demandé de parler à ce petit David, à deux, tous les deux, je lui ai posé cette question et je lui ai dit, David, qu'est-ce que tu sais qu'on m'a appelé, tes parents, et ils t'ont demandé, ils t'en ont parlé à toi aussi, qu'est-ce que je viens faire? Et cet enfant m'a répondu, tu vas faire ce que Jésus a fait.
Alors, ça met une claque.
Il n'y a pas besoin d'argument. Et alors je lui dis, oui, je vais faire ce que Jésus a fait. Voyez, on est donc un enfant peut aussi percevoir ça. Et il y a un autre élément qui peut jouer. Pour finir de vous répondre, on considère aussi qu'il y a des moments de vie où la vieillesse, la dépendance appelle aussi ce sacrement. Je n'exclus pas du tout le fait qu'en fin de vie, à des moments cruciaux comme cela, on peut aussi le vivre et vivre de grands moments.
Est-ce qu'il faut être baptisé pour recevoir ce sacrement des malades ?
Oui, bien sûr, il faut être baptisé.
Qui peut dispenser ce sacrement ? Des prêtres ? Mais est-ce que les diacres aussi peuvent le dispenser ou c'est réservé aux prêtres ?
Non, pas les diacres, parce que c'est simplement que l'évêque et le prêtre sont configurés au Christ prêtre, que le diacre est configuré au Christ serviteur. Voilà. On ne touche pas à la grâce sacerdotale spécifique. Donc c'est l'évêque ou le prêtre qui peut donner ce sacrement comme un sacrement qui touche au fait du Christ prêtre.
Pierre-Michel Pagès, on va faire une première pause musicale et on revient dans quelques instants.
Accueillez-vous les uns.
Radio Présence sur le Causse, 106.5. Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Michel Pagès, recteur du sanctuaire de Saint-Jérôme à Toulouse, responsable diocésain des aumôneries pendant 8 ans et aumônier national Lourdes Cancer Espérance pendant 12 ans. Mon père, quel est le rituel autour de ce sacrement des malades ?
Donc je pense que c'est l'épître de Saint-Jacques, comme je l'ai évoqué, qui en donne un peu la structure. Il commence par dire qu'il faut que, avec l'environnement, on prie. Et ça, c'est majeur. Mmh. C'est pas seulement le prêtre qui agit de manière solitaire, certes au niveau de son ministère, mais c'est d'abord entourer le patient de prière. Ce qui fait qu'on peut donner ce sacrement d'une manière, dans une chambre d'hôpital avec quelques intimes, et on peut le donner d'une manière plus ecclésiale dans le cadre d'une paroisse, ou a fortiori dans le cadre d'un pèlerinage. Il y a des hauts lieux de pèlerinage, je pense à Lourdes effectivement, où on peut le donner à des centaines de personnes. J'ai des souvenirs à Lourdes Cancer Espérance. Alors de fait, ce pèlerinage s'adresse à des personnes concernées par le cancer, et donc c'est une majorité de gens, et où la maladie au multiple visage est très ciblée. Mais là, on peut vivre, et on vit tous les ans, un sacrement qui est préparé, discerné, mais entre 800 et 1 millier de malades sur un pèlerinage de 7000 en moyenne de pèlerins. Donc c'est une démarche qui est communautaire et qui donne un autre visage. Donc tout ça pour dire que d'une manière ou d'une autre, à des cercles restreints ou plus larges, on entoure le patient de prière. Ça c'est très fort. Ensuite, on place à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est, on peut prendre un récit de miracle de Jésus, certes, et on a l'embarras du choix. Mais je pense que l'épître de Saint-Jacques que j'ai évoqué donne bien vraiment permet d'entendre ça. On prie, on fait ce que Jésus a fait. On fait le geste de l'imposition des mains que Jésus a pratiqué. Et puis on fait une onction. Donc cette onction, elle est... on précisait dans l'ancien rituel qu'elle pouvait se faire sur plusieurs parties du corps. Ce qui était parfois très délicat dans la pratique, et y compris dans certaines maladies. On ne pouvait pas accéder à toutes les parties du corps, donc c'était un peu délicat. Mais la réforme a repris une pratique qui est beaucoup plus juste, c'est-à-dire qu'on fait une onction sur le front du malade et dans les mains du malade. Et donc ça veut dire que le front, c'est la tête, c'est le capote, c'est toute notre liberté, notre gouvernement, notre gestion, qui fait qu'il y a notre volonté qui est touchée. Et puis c'est notre faire. Voilà. Donc il y a la globalité de l'être qui est là, dans la pensée, la volonté, la liberté, dans le faire. Donc on marque de cette huile du malade le front et l'intérieur des mains. Voilà. Et on fait effectivement l'imposition des mains. Alors on précise qu'elle est d'abord faite dans le silence. Les paroles suivent évidemment, mais le silence est important parce que on laisse, si j'ose dire, Jésus faire. Vraiment.
Quelle est la signification de l'huile bénite ?
Alors, je pense qu'il faut évoquer la médiation, enfin ce qui sert de médiation dans le sacrement. Pour l'Eucharistie, il faut du pain et du vin. Jésus a pris du pain et du vin. Donc là, concrètement et véritablement, il se donne à nous dans son corps et dans son sang. Et donc, il y a quelque chose d'un véhicule. On dit le véhicule de la grâce. On dit la médiation. On dit, je crois, dans la définition du sacramentel du sacrement dans l'Église, on dit ex opere operato. On pourrait dire que c'est le même mot, c'est comme une tautologie. Ce qu'il fait, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Voilà. Ce qu'il fait s'opère. Voilà. Agit. Voilà. Donc cette huile, elle est une médiation. Voilà.
Et pour l'imposition des mains, quelle est la symbolique derrière?
Alors les mains ont un profond sens biblique. On aime à évoquer dans l'Église cette posture quand Moïse élève les mains et qu'on soutient les mains pour que sa prière continue d'être efficace et qu'il ne baisse pas les mains pour que sa prière agisse encore. Et on le soutient et avec plusieurs, on l'aide à continuer dans cette posture. Voilà, donc il y a le rôle des mains. A toujours dans la Bible un sens, j'évoque ce fait, mais Jésus a imposé les mains. Donc vraiment, on touche vraiment cette pratique de Jésus. Alors, l'imposition des mains a un sens de bienveillance, le sens du toucher, du don de l'esprit. Cette imposition de main se fait à tous les 7 sacrements de l'Église. Et on appelle le don de l'Esprit, le don de la grâce, pour qu'elle opère. Voilà. Donc on a le sentiment dans l'Église, et c'est prouvé, que Jésus a agi aussi de cette manière. Et qu'on se sent obligé de continuer au bon sens.
Dans la Bible, est-ce qu'on trouve trace de ce sacrement?
Alors, directement, je ne pense pas, mais il y a quand même la symbolique de l'huile dans la Bible qui servait à l'onction des rois. Et donc là, il y a quelque chose de sanctifiant, voilà, et qu'il faut pas perdre de vue, et qui est dans la grande tradition biblique. Oui. On oint celui qui, au nom du Christ, a une autorité temporelle, bien, mais aussi une forme d'autorité spirituelle. Certaines grandes figures de rois ont exercé cela, et je pense à Saint Louis, mais en ont été des grandes figures. Mais dans la Bible aussi, la tradition des rois bibliques vivait cette onction. Donc il y a quelque chose là de profondément biblique. Alors on peut retenir le fait que c'est une bienveillance de Dieu, une force qu'il donne. Donc on peut faire un parallèle, mais quand même distinct.
Ce sacrement des malades, c'est un sacrement qui ne nécessite pas forcément de préparation de la part du malade, ou je me trompe?
Alors là, bonne remarque. La préparation, vous savez, comme dans tout sacrement, il y a quand même un besoin d'éveiller la personne à ce qui va se faire. Hein. On prépare pas, voilà, la première communion comme ça. Alors après, il y a toutes les méthodes et les sensibilités, mais peu importe, il y a quelque chose d'un éveil. Alors parfois, dans des situations que j'ai connues à l'hôpital, sur un terrain parfois un peu loin de l'Église, quoi, que baptisé, on a parfois, dans une rencontre préalable, on doit avoir le souci de proposer ce sacrement. Et le fait qu'il a quelque chose à leur dire, mais qu'ils sont souverains dans leur liberté, qu'il faut aussi désamorcer ce dont on a parlé, c'est-à-dire que pour certains, c'est le sacrement de la mort, puisque c'était l'extrême onction. Et donc, il faut aussi désamorcer ça en disant, mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Et donc, on explique. Je sais aussi que, et on y arrive, alors, c'est pas une affaire, c'est pas besoin de 36 heures de cours. C'est aussi une forme de pédagogie pour que l'accueil soit vrai. Je voudrais quand même préciser que, dans le cadre des grands pèlerinages à Lourdes, il y a quand même une préparation un peu plus structurée.
Oui.
C'est-à-dire que les aumôniers de chaque délégation pour Lourdes Cancer Espérance, donc de chaque diocèse, ont un souci, connaissant un peu leurs adhérents, de les y préparer. Mais on sait aussi que dans ce cadre-là, des malades vivant le bain du pèlerinage ressentent un besoin vital parfois de le demander. Donc on propose toujours la veille de la cérémonie de l'onction une heure de rencontre où on leur fait un petit topo, une petite heure pour les mettre en condition et mais pas seulement intellectuelle, aussi spirituelle, de ce qu'ils vont recevoir. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut ajuster, mais il y a quelque chose à dire. Voilà. On ne donne pas ex abrupto un sacrement, on prend la personne, on la respecte, et on lui dit ce qu'on va faire, et on sollicite sa liberté.
Et quelle solution alors pour les personnes qui n'ont pas cette conscience, qui n'ont pas cette capacité d'éveil à ce sacrement ?
Très juste. C'est-à-dire qu'il peut arriver des situations, pardon, mais encore à l'hôpital, dans des situations extrêmes, où la personne peut être inconsciente ou dans un coma. Donc c'est les proches que l'on rencontre qui nous parlent de la personne et qui nous disent « cette personne, mon conjoint, peu importe, mon enfant, mon grand-père, était profondément croyant. » Voilà. Donc on s'appuie là sur leur témoignage, et là on peut, sur ce témoignage, mais vous voyez, c'est une forme non pas de vérification, mais de discernement. Et à ce moment-là, on peut, dans la foi, donner le sacrement.
Lorsqu'une personne est mourante, on lui donne une dernière communion. Quelle est la symbolique derrière cet acte ?
Alors ce terme, ce moment est précisé dans ce qu'on appelle les sacrements des malades, c'est le rituel officiel, les sacrements. Et ce que vous venez d'évoquer, ça s'appelle le viatique. C'est-à-dire que on donne à la personne lucidement chrétienne et lucidement prête au passage de la mort, on lui donne la dernière communion. J'ai vécu des moments très très forts, mais là évidemment, là aussi il faut que la personne soit au clair avec sa foi, bien sûr, et c'est pas si fréquent, mais c'est très très beau quand la personne a conscience qu'elle prend, comme on dit de l'Eucharistie, le pain de la route, et que ça devient, alors là pour le coup, voilà, le pain du dernier chemin de vie en cette humanité. Donc c'est très beau, mais c'est un des visages de l'accompagnement des personnes.
On l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est avec la réconciliation, le seul sacrement que l'on peut renouveler. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, le lien que vous faites est important entre la confession, la réconciliation et l'onction. Parce que théologiquement, ces deux sacrements, on dit que ce sont les sacrements de la guérison. De guérison. Le terme guérir, voyez, intervient pour le pénitent et pour le malade. Voilà. Pour d'autres, on dit les sacrements de l'initiation chrétienne, pour le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Voilà. Donc il y a un ensemble qui est donné. Donc ce que vous évoquez tient ensemble la réconciliation et l'onction comme des deux visages de la guérison chrétienne. Donc il y a un lien évident. D'ailleurs, dans l'épître de Saint Jacques que j'ai évoqué encore, on dit bien que ce sacrement les relèvera de leurs fautes. Alors parfois c'est des questions. On dit mais alors on n'a pas besoin de se confesser pour recevoir ce sacrement. L'Église l'a compris comme étant, s'il n'y a pas de faute majeure et grave, ce sacrement emporte tout. Voilà. Mais s'il y a une faute majeure assumée et grave, pour le coup, ça n'exclut pas du tout de la confesser. Voilà. Mais ça dit la force de guérison qui est dans ces deux sacrements.
Père Michel Plagès, on va faire une deuxième pause musicale. On écoute tout de suite Infiniment Grand et on revient dans quelques instants.
Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Éternel puissant, roi majestueux.
présence aux portes du Tarn 97.9.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence pour la troisième partie de cette émission avec le père Michel Pagès, recteur du sanctuaire Saint-Jérôme à Toulouse, responsable diocésain des aumôneries pendant 8 ans et aumônier national Lourdes Cancer Espérance pendant 12 ans. Mon père, pour un catholique qui ne recevrait pas ou qui ne ferait le choix de ne pas recevoir l'onction des malades, quelles conséquences ?
C'est une liberté que de vouloir le recevoir. Voilà. Un fidèle chrétien catholique sait que ce sacrement est à sa portée et que il est doux de savoir qu'on peut être accompagné dans ces moments difficiles. C'est une grâce, mais comme toutes les grâces, elle appelle notre liberté. J'ai vécu ça dans des lieux de soins où des personnes malgré une explication que j'évoquais aussi, le fait de les y préparer, en disant, vous savez, vous pourriez recevoir ce sacrement qu'on qualifie aussi le sacrement de la force, du combat. On l'oublie. Mais j'ai vécu des situations de vie où une personne peut retrouver force, goût à la vie. J'ai été même très, très surpris et en même temps heureux d'entendre des cadres de santé au CHU qui disaient, mais on vous appelle, mais qu'est-ce que vous leur faites à ces malades? Parce qu'on revient dans la chambre, ils sont apaisés, ils voulaient pas mourir, mais ils sont apaisés, ils n'en finissaient pas de mourir dans une lutte, et ils sont apaisés, et on sent qu'ils sont prêts. Ou cette personne, mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour lui rendre espèce de... Le mot qui me vient, c'est joie, mais espèce d'apaisement, voilà. Et je pouvais pas répondre autre chose que j'ai fait ce que l'Église fait quand quelqu'un croyant appelle ce que Jésus a fait. Voilà. Et il y a pas de quoi en faire un orgueil, mais c'était pas non plus une démonstration. Mais ce qui me touchait, moi, personnellement, pas seulement dans mon ministère, mais ce qui me touchait, c'était que quelqu'un qui peut être très loin, et apparemment c'était le cas, disait abruptement, mais qu'est-ce que vous leur faites? Et voilà, oui. Comme si... Il y a quelque chose là qui est touchant quand même. Voilà. Mais personne qui dit non, finalement je peux pas. Là on peut pas forcer. Non, pas du tout. Il n'y a pas lieu de ça. Donc, voilà, personne ne veut, lucidement éclairé, ne veut pas recevoir ce sacrement, on en prend acte. Voilà. Mais que dire de cette personne? Rien, sinon que elle a d'autres moyens aussi pour vivre ce qu'elle a à vivre.
Ce sacrement des malades, c'est un sacrement qui se fait souvent dans la douleur, dans la peine, parce qu'on sait que la fin peut arriver, que la fin est proche, ou que la personne qui reçoit ce sacrement est dans une certaine souffrance, alors que tous les autres sacrements se font dans une certaines joies. Quel regard vous portez là-dessus?
Oui, j'entends. Et c'est souvent l'interpellation de la maladie, de la fragilité, de la faiblesse, d'un défi de santé qui pose cette question éventuelle du sacrement. C'est vrai. C'est sur ce terrain. On n'en parle pas quand tout va bien. C'est un fait. Voilà. Sauf que Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs et les malades. Quand j'étais tout petit, j'ai un de mes premiers souvenirs d'enfant, je ne devais pas être bien grand, mais je me rappelle avoir dit à maman, mais alors Jésus n'est pas venu pour moi. Alors elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, le prêtre a dit cette parole de Jésus, je suis venu pour les pécheurs et les malades. Et je revois le doux sourire de maman qui me dit, ne t'en fais pas, tu comprendras. Voilà. Et j'ai vite compris que je suis venu pour les pécheurs et les malades, c'était chacun de nous. Voilà. C'est quand on comprend qu'on est pécheur, quand on comprend qu'on est malade, pas au sens premier du terme, mais qu'on est fragile. Voilà. Bien sûr, c'est ce terrain de cette fragilité, de cette douleur que vous évoquez, c'est vrai. Mais, pour le coup, quand on l'a donné, quand on a prié, quand on a vu une solidarité de prière, et quand le mystère de cette grâce qui est donnée au Père, confère ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que il y a des choses d'un comportement qui est changé. On n'est pas des faiseurs de miracles, on est des témoins de la miséricorde de Jésus qui fait que tout devient possible. Et que donc une situation difficile, de combat, d'épreuve, peut mystérieusement être changée. Et que c'est pas nous qui, du haut de notre bonne santé, si j'ose dire, qui disons à la personne malade, vous allez voir, enfin voilà, espèce de consolation à quatre sous, qui fait plus de mal que de bien. Mais c'est quand ces choses ont été données et dites de la part de Jésus, de faire le constat que la personne elle-même peut dire, je me sens mieux, je me sens apaisé, je peux accueillir ça. Vous voyez, c'est pas que la guérison physique qui est une grande grâce et un grand mystère, mais c'est aussi tout ce que on a vécu engendre de conséquences sur cette personne et qui est toujours un visage d'espérance. Voilà. Excepté évidemment des fins de vie ou quand la conscience n'est pas tout à fait claire, etc. Bien sûr, là, c'est un peu autrement. Et puis parfois, c'est arrivé de le donner dans des situations de jeunes, avec à 20 ans, accident de moto, enfin, ou de voiture. Qu'est-ce que vous voulez ? Bien sûr, les parents, les proches demandent ce sacrement, on est avec eux, on le donne, mais on ne saute pas au plafond. Il y a quelque chose de cette vie menacée, de cet écueil, qui fait que, bien sûr, on est toujours un peu ambivalent entre une espérance et une peine.
On le disait tout à l'heure, vous avez été responsable des aumôniers hospitaliers pendant 8 ans, aumônier national du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance pendant 12 ans. Pourquoi cette attention pour les plus fragiles, pour les plus malades comme Jésus ? Qu'est-ce qui vous attire ?
J'en fais le constat que mes différents évêques m'ont proposé ces missions, car je ne les ai jamais choisies. Alors, évidemment, elles ont trouvé un écho en moi. Chaque fois que, quand on m'a sollicité pour LCE, Lourdes Cancer Espérance, quand on m'a sollicité pour le monde des aumôneries, tout ça, de fait, ça trouvait un écho en moi. Alors, je ne peux pas l'expliquer de manière absolue, mais ce que je peux vous dire, j'ose vous dire, c'est qu'un de mes premiers balbutiements vocationnels, sacerdotal, c'était à Lourdes. Je crois que j'avais 12 ans et j'avais une tante qui était très engagée dans les hospitalités. Et c'est un de ces étés à 12 ans où les parents, cette année-là, j'en sais rien, le détail, mais avaient les vacances prévues n'ont pas eu lieu. La mère, on n'y avait pas droit cette année-là, je sais plus pourquoi. Tous mes copains partaient et voilà, on devait rester là. Et alors cette tante me dit, est-ce que tu veux bien venir avec moi à Lourdes ? Ah oui, bof, l'enthousiasme n'était pas absolu. Et en fait, j'ai fait une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai porté dans le rituel de Lourdes, ce qu'on appelle les bretelles, là, pour servir. Et j'ai été plongé pendant une dizaine de jours. J'étais avec le groupe des jeunes de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, qui est très, très structuré, organisé. Et j'ai vécu un bain d'universel, un bain de joie de vivre et de joie de servir. Et un des premiers frémissements peut-être vocationnel, c'était de penser qu'il y a de la joie à servir, y compris les plus fragiles. Alors, quand on m'a proposé ces différentes missions, peut-être il y avait quelque chose de ça. Je l'ai relu en d'autres temps, mais why not ? Peut-être que quelque chose de cette espèce de ressenti au fait que, est-ce que c'est pas ça l'évangile ? Parce que je me rappelle avoir vraiment intérieurement ressenti le fait que je suis d'un milieu catholique assumé et heureux et paisible, mais j'ai compris subitement ce que j'avais appris au catéchisme. C'est-à-dire que les malades et les derniers sont premiers. Et à Lourdes, je le voyais sous mes yeux. C'est-à-dire que les malades sont les premiers servis. Je disais, mais alors c'est vrai. Alors l'évangile a quelque chose de palpable en certains lieux plus que dans d'autres. Voilà. Donc ça, c'est toujours resté dans mon cœur. Alors, quand l'Église, au nom par le biais des appels de mes évêques successifs, m'ont appelé là, je n'ai eu aucune réserve pour le vivre.
Vous avez dispensé ce sacrement de malade à de nombreuses reprises. Est-ce que c'est la même chose à chaque fois, ou chaque situation, chaque fidèle est différent?
Ah, c'est jamais pareil.
Ah, c'est jamais pareil, c'est ce que je me disais.
Alors, pour le coup, mes nombreuses années à l'hôpital, où je n'ai jamais vécu le sacrement pareil. Jamais. C'est-à-dire que, en plus, vous savez, les aumôneries fonctionnent avec des équipes, c'est-à-dire que le prêtre est loin de tout faire, il est là dans son ministère spécifique, et donc il y a des équipes de laïcs qui sont très structurées, et que on peut, nous prêtres, être appelés à donner ce sacrement, mais on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Souvent des visiteurs, des membres laïcs ou religieux, religieuses d'aumôneries, ont préparé tout un terrain de disposition. Et moi, mon premier travail, c'était de respecter ces dispositions, parce que c'est un vrai travail pastoral préalable, et que donc on s'appuyait là-dessus. Donc, par exemple, quand on allait dans la chambre du patient pour le donner, sur le chemin, préalablement, la personne me disait un peu ce qu'ils avaient vécu dans telle ou telle rencontre, et que donc ça préparait. Mais c'est vrai aussi que la rencontre avec des familles d'abord très différentes. On vit une époque où les familles ne sont pas toutes structurées et faciles, et que donc l'épreuve de la maladie ou de la mort n'a pas les mêmes conséquences. Donc on avait des rencontres avec des situations de vie, des situations familiales les plus diverses, et qu'on n'est jamais pareil.
Une dernière question pour clôturer cette émission et pour faire écho à l'actualité. La fin de vie, c'est un sujet qui occupe beaucoup le débat public en ce moment. Est-ce qu'une personne qui déciderait de recourir au suicide assisté pourrait recevoir ce sacrement des malades? Ou c'est une question qui n'a pas encore été étudiée?
Je pense qu'il y a une grande question là, parce que pour nous, justement, tout le sens de ce sacrement, c'est de servir la vie. La vie qui est un don de Dieu et qui donc est sacrée. Et qu'on fait pas tout et n'importe quoi de la vie. Donc il y a quelque chose d'un respect fondamental qui doit être pris en compte. Donc je pense que voilà, il y aurait un vrai questionnement, un vrai dialogue préalable pour ce genre de choses, parce que voilà, la vie est un don, et la vie peut être... J'ai des souvenirs à l'unité de soins palliatifs de Purpan, le service résonance, où nous allions jour et nuit, que là, des personnes à qui, en fin de vie, auprès desquelles on trouvait un équilibre subtil pour soigner la douleur, parfois terrible... Et une personne qui, 5 minutes avant, hurle en disant « je veux mourir ». J'ai entendu ça, j'ai entendu les hurlements dans les couloirs. « Je veux mourir ». Et puis quand on trouve le juste équilibre du soin, de calmer la douleur, de l'accompagnement, et que je revois la personne le lendemain, et qui me dit, je pense cette personne, parce que ça m'a marqué, qui me dit d'emblée en arrivant, « Est-ce que vous croyez que je pourrais repartir encore une dernière fois au Maroc ?» Et pourquoi pas ? Enfin, voilà, ça voulait juste dire que cette personne se projetait à nouveau. Et que ça, si vous voulez, il y a quelque chose de cela que l'Église défend, justement par la pertinence des soins palliatifs, que la vie est un don et que l'Église sert la vie don de Dieu.
Et on terminera sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Père Michel Pagès.
Merci.
Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.